face à une situation de blocage, comment la débloquer sans en arriver à une punition ultime ? Où doit-on laisser faire ? C'est vrai que souvent, on est dans ce truc de ne pas savoir, est-ce que je dois punir ou est-ce que je laisse faire ? Est-ce que je suis autoritaire ou est-ce que je suis laxiste ? Comme si on n'avait que ce choix-là, d'être l'un ou l'autre. Mais finalement, s'il y a situation de blocage, qui bloque ? Ben, dans un blocage, il y en a deux, hein ? Donc ça signifie que moi aussi, je me suis bloquée. Nous, on a un cerveau, théoriquement, plus développé que celui de l'enfant. Sauf que parfois, oui, on arrive à se bloquer aussi. On se bloque sur une idée. Tu mets tes bottes ! Et l'enfant, pour peu qu'il ait 2 ans et demi, non ! Voilà, il a entre 4 et 8 ans. Ou entre 4 et 8 ans, il se passe des tas de trucs. Mais je veux aller faire du vélo. Non. Évidemment, là, il ne peut y avoir que blocage. Comment débloquer la situation ? Peut-être déjà arriver à ne pas la bloquer. Ce serait une idée. Pour ne pas bloquer une situation, on va écouter le besoin de l'enfant. Notre souci à nous, c'est que nous avons tendance à interpréter tout ce que disent nos enfants au pied de la lettre, en oubliant qu'ils n'ont pas encore les capacités de formuler les choses comme nous, nous les formulons. Un garçon, puisque là, 4 à 8 ans, un garçon de 8 ans rentre à la maison, il demande, il dit à sa mère, « Je veux aller faire du roller. » Et la mère lui dit, « Il n'en est pas question, on dîne dans 5 minutes, donc non. »« Si, je veux aller faire du roller. » »« Non. » Et déjà, la psy lui a dit, « Il faut mettre des limites à votre enfant. » Donc elle se dit, « Il faut que je mette des limites. » Donc je mets des limites, donc des limites, c'est non. Tu n'iras pas faire du roller, on ne va pas faire du roller juste avant le dîner. Tu le sais très bien, d'ailleurs, pour quelle raison est-ce que tu me demandes systématiquement d'aller faire du roller ? C'est vrai, ça ? Comment ça se fait qu'il demande systématiquement d'aller faire du roller juste au moment du dîner ? Il sait bien que sa mère va dire non. C'est louche. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'enfant a une intention négative ? Est-ce qu'il a une intention perverse ? Probablement pas. Mais peut-être bien qu'il se passe quelque chose dans son corps. Il a beaucoup de tension dans son corps. Et lui, il se dit, faire du roller, ça va me détendre. Et puis, comme sa mère lui dit non, elle dit non au roller. Elle oublie qu'elle pourrait lui dire, et tu as envie de faire du roller maintenant ? Ça veut dire que tu as vraiment plein de tonus et d'énergie à l'intérieur de toi. Je vois bien que pour toi, ce n'est pas le moment du dîner. Puis comme on ne veut quand même pas qu'il aille faire du roller, on pourrait lui dire « Est-ce que tu veux venir avec moi sauter un petit peu sur le... » Comment ça s'appelle là, les... Trampolines. C'est super d'avoir les petits trampolines chez soi. Les minuscules trampolines. Ça aide énormément parce que là, hop, on peut lâcher beaucoup de tension et en plus, c'est un des exercices qui va donner le plus de joie. Donc, quelques petits sauts sur le trampoline en criant et l'enfant va être tout à fait disponible pour le dîner. Mais c'est ça le souci, nous. C'est que l'enfant ne sait pas nous dire à 8 ans, « Maman, je sens une grande tension dans mes jambes. Je sens de l'énergie dans mes bras. Je me sens tout tendu dans ma tête et dans mon cœur. » Ça ne va pas du tout. J'ai vraiment besoin d'aller me défouler avant le dîner. Vous imaginez un gamin qui ne sait 8 ans. Même nous, déjà, on n'est pas capable de dire ça. Donc, un enfant de 8 ans, il ne sait absolument pas dire ça. Du coup, il a besoin que nous, on l'aide à décoder. Si un enfant fait une demande exagérée, inadaptée, disproportionnée par rapport à la situation, c'est qu'il y a une raison. Lui, c'est sa solution pour un problème. Mon job de parent, c'est de dire « j'entends que ça, c'est ta solution, mais regardons quel est ton besoin derrière. Et parfois, je vais dire, ah oui, c'est une chouette solution pour ton besoin. Et d'autres fois, je vais dire, peut-être il y a une autre solution qui pourrait t'aider par rapport à ce besoin. Dans la situation de ce garçon de 8 ans, ça se répétait. Et chaque fois qu'elle lui interdisait ou elle lui disait non sur quelque chose, il se mettait dans des fureurs phénoménales. À 8 ans, c'est plus tellement l'âge des fureurs phénoménales. Donc, qu'est-ce qui se passait pour ce garçon? Lorsqu'elle avait été consultée, on lui avait dit « Madame, il faut mettre des limites, vous êtes trop en fusion avec votre enfant ». On dirait que c'est la phrase magique de beaucoup de psys en France aujourd'hui. C'est l'ancienne façon de faire qui fait référence à toute la théorie psychanalytique qui est abandonnée dans la plupart des pays du monde. Mais en France, on continue de penser comme ça, que l'enfant donc a des comportements et qu'il faut mettre des limites à ses comportements. Et donc malheureusement, elle essayait, désespérément elle essayait, aggravant forcément le problème chaque fois. Et donc, heureusement, elle m'en parle. Et du coup, on réfléchit ensemble. Je dis, tout de même, c'est excessif, ces énormes rages qu'il a. Est-ce que c'est tout le temps? Elle me dit, maintenant que j'y pense, au début elle dit, oui, c'est tout le temps. Mais elle dit, maintenant que j'y pense, pas pendant les vacances. Ah bon? Non, et même pas pendant le week-end, en fait. Ah oui? Et donc, c'est seulement les jours de classe, oui. Ah oui, et comment ça se passe à l'école? Et elle a interrogé son fils. Et son fils vivait des humiliations importantes à l'école. Il était très en avance par rapport aux autres. Il avait très souvent fini son travail. Et au début de l'année, eh bien, il s'était levé de sa chaise quand il avait terminé son travail pour aller aider un autre enfant. Mais la maîtresse était arrivée. Elle lui dit, non, tu ne dois pas te lever pour aller aider les autres, sinon moi je ne peux pas contrôler le travail des autres, donc ça ne va pas, reste à ta place. Et donc du coup, il avait été, non seulement il s'ennuyait, mais en plus il avait été freiné dans cette impulsion naturelle, fondamentale, ce besoin inné d'empathie, d'aider autrui, il avait été freiné dedans. Comment peut se sentir un enfant de 8 ans qui est dans cette situation? Et donc, il avait essayé d'en parler au début à ses parents, mais les parents avaient minimisé, ils étaient occupés, ils avaient d'autres choses à faire. Oui, bon, bah, écoute, c'est pas très grave, allez, voilà, t'as qu'un an à passer avec elle, et tatata. Seulement, l'enfant ne supportait plus. Et donc, ça faisait une charge à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'il sentait tout ce truc dans lui. Toutes ces tensions dans ses jambes et toutes ces tensions partout dans son corps. Parce que le stress, les émotions réprimées, ça n'est pas psychologique, c'est physiologique. Ça se passe dans notre corps. Et donc, toute cette accumulation dans son corps avait besoin de sortir. Et donc, la moindre petite pichenette, la moindre frustration déclenchait tout simplement la décharge de ce stress. Il était en train de dire, « Maman, je souffre à l'école ». Nos émotions, c'est vraiment ce qui nous permet de nous sentir être nous. Nos émotions, elles sont vraiment à la racine de notre sentiment d'être, à condition d'être entendu, à condition d'être écouté. Les émotions, c'est pas quelque chose qui se passe dans la pensée, c'est quelque chose qui se passe dans le corps. Nous percevons quelque chose, une petite zone qu'on appelle l'amygdale, ici en rouge, va déclencher une décharge d'hormones. Et ces hormones vont aller dans le corps pour mobiliser le corps vers l'action. Seulement après, il y a une information des zones néocorticales qui vont pouvoir tempérer ou non la réaction émotionnelle. Le stress, c'est la réaction non spécifique de l'organisme face à un danger, face à une situation qui nécessite une adaptation, soit un danger, soit un déménagement, la perte de quelqu'un. Et donc, concrètement, quand notre enfant est particulièrement énervé, quand il part en fureur à la moindre occasion, regardons. Quelle est la charge de stress dans son organisme? Est-ce que peut-être son meilleur ami vient de déménager? Est-ce que peut-être nous venons de déménager? Est-ce que papa a changé de travail? Est-ce qu'il y a eu un deuil dans la famille? Est-ce que le petit chat est mort? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que les parents se disputent? Est-ce que les parents ont divorcé? Le stress, c'est la réponse non spécifique de l'organisme. Quand on était dans l'ancien temps, à la préhistoire, le mammouth avançait vers nous. Et là, dès que notre amygdale percevait le danger, paf, elle déclenchait la charge d'adrénaline, parce qu'il faut faire battre le cœur très vite pour pouvoir avoir toute mon énergie à disposition, et le cortisol pour pouvoir me permettre de ne pas avoir mal en cas de blessure, pour protéger, pour faire que je ne saigne pas trop si jamais je suis attaquée. Donc, oh, mon corps est prêt à réagir face au mammouth pour tuer le mammouth. Si j'ai un arc, ça me donne vraiment une vision plus loin. Tuer, donc attaquer. Ou alors fuir le mammouth à toutes jambes. Et puis quelquefois, quand on ne peut ni attaquer ni fuir, parce que parfois les mammouths peuvent courir plus vite que nous, donc c'est pas sûr que ce soit la bonne solution, on fait la stratégie de la souris face au chat. C'est pas une stratégie où je me dis « Ah ah, il faudrait que je me fasse comme une souris face au chat ». Non, c'est inscrit à l'intérieur de nous. Face à un danger important, soit j'attaque, soit je fuis, soit je me pétrifie sur place. Ça s'appelle « freeze », le figement. Je me fige, comme la petite souris qui se fige face au chat. On a l'impression qu'elle est morte. Les chats se laissent rarement avoir. Ils la secouent un petit peu, effectivement, elle repart et hop. Mais les mammouths se laissaient avoir. Et donc, si je fais le mort, figement, le mammouth ne m'attaque pas. Attaque, fuite et figement sont les trois réactions que notre corps à développer pour pouvoir faire face à toutes sortes de sollicitations de l'environnement, de sollicitations pour arriver à faire face au danger. Les études d'Henri Laborit montrent que c'est l'attaque qui va le moins nous abîmer corporellement. Dans l'attaque, finalement, toute cette énergie qui est distribuée dans mon organisme, je l'utilise. Toute cette tension, je vais l'utiliser. Donc, après, ça va mieux. Dans la fuite, j'utilise aussi les tensions puisque je cours, mais ça ne me donne pas la sensation de puissance et je vais avoir un petit peu plus tendance aux maladies que si j'attaque systématiquement. Et alors, ceux qui se figent, c'est ceux qui ont le plus de problèmes par la suite. Parce que figement ne veut pas dire que le processus de stress s'interrompt. Au contraire, il reste à l'intérieur et continue d'abîmer mes artères, continue d'abîmer mon cœur, continue d'abîmer mon organisme. Au bout d'un moment, figé, on se défige. Ça arrive qu'un enfant, on lui crie dessus. Alors, il y en a qui arrivent à résister et qui attaquent. Rarement, en général, ils vont attaquer leur frère, attaquer un copain à l'école. Ça arrive qu'ils fuient. Mais, en général, ils peuvent guère ni fuir ni attaquer. Et donc, ils se figent. Et nous, on croit qu'ils nous écoutent enfin, mais en fait, non, ils sont juste figés. Ils font la souris morte. Ce n'est pas qu'ils le font exprès, c'est que leur corps les oblige à être comme ça. Et ensuite, ils vont se défiger et probablement donc agresser quelqu'un d'autre. puisqu'il n'est pas possible d'agresser le parent. Si, heureusement, je peux agresser ma maman. Heureusement, ma figure d'attachement, je peux l'agresser sans trop de risques. Un enfant qui agresse sa mère, c'est un enfant qui cherche à éviter d'agresser d'autres enfants, qui cherche à éviter d'être un mauvais garçon, un mauvais enfant, et qui cherche de l'aide auprès de la seule personne qui peut la lui donner, sa maman. Sa maman qui l'aime inconditionnellement. Le souci, c'est comme les mamans n'ont pas l'information, elles ne devinent pas que c'est une preuve d'amour, et elles se disent, c'est moi qui suis nulle, c'est moi qui ne sais pas bien y faire. Au contraire, ça montre qu'on est vraiment une maman qui est capable d'accueillir. Accueillir, c'est important, puis ensuite aller enlever le problème. Et donc, quand ce petit garçon de 8 ans, on a pu identifier qu'il souffrait à l'école, que ses parents ont enfin pris la mesure de sa souffrance, il a pu être entendu, il a pu pleurer, il a pu libérer ses émotions. Et le papa lui a donné des petites stratégies pour pouvoir s'occuper en classe. Et ils ont décidé qu'il changerait d'école le plus rapidement possible. À partir de là, eh bien, il n'y a plus de problème, ni de roller juste au moment du dîner, ni de quoi que ce soit, de problème de soi-disant intolérance à la frustration. Nous avons tendance à plaquer des étiquettes. Oui, il est intolérant à la frustration. Oui, il est comme ci, il est comme ça. Non, il a un souci dans son cœur. En fait, chaque fois que nous sommes tentés de juger notre enfant, on rembobine et on se dit quel est le souci dans son cœur? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et le plus souvent, c'est déjà la charge de stress qui va me donner la réponse.